Salut, 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 ciao à tutti, bienvenue dans ce numéro 80 de Pronto Calcio, et oui, vous avez bien entendu, c'est pas la voix de Cédric Canale, il est encore tout groggy de ses célébrations du titre de l'Inter. Aujourd'hui on est, j'ai envie de dire, un peu en funérailles, nous 3 milanais. J'accueille Raphaël Gauthier, salut Rafa.
Salut les gars.
Et j'accueille aussi en ce mardi 30 avril Tristan Pubert, notre petit journaliste de SoFoot. Salut Tristan, enfin petit, pas par le talent.
Salut Anto, salut Raphaël, salut à tout le monde.
Bon les gars, c'était comment ce week-end d'horreur à voir tout ça? Vous tenez le coup?
Oui, on a bien. Moi, je vais voir avec Raphaël et moi, j'ai bien dormi devant une Milan-Juve. Enfin, j'ai réussi à résister, mais j'étais à deux. Franchement, il y avait 30 secondes de plus dans ce match et c'était une sieste d'une heure. Hein, parce que franchement, c'est bien ennuyé devant ce match.
Ouais, et toi, Rafa, moi, je l'ai regardé sans regarder. Je sais pas, je crois que Rafa, t'étais en week-end, toi t'étais pas avant le match devant le Juve.
Non, moi après le titre gagné le soir du derby, c'était un peu compliqué de me remettre au foot, donc j'ai fait un peu off, même si bien sûr j'ai suivi tout ce qui était très important à suivre ce week-end, donc les matchs un peu importants au classement, le Naples-Rome, les matchs de l'Atalanta de Bologne. Milan-Juve, oui, j'ai regardé en grande ligne pour la forme, mais bon, le résultat nous a montré que ça avait peu d'intérêt au classement, mais ça, je pense qu'on y reviendra.
C'est ce qu'on va faire, en fait. On va commencer par ça. Aujourd'hui, je vais faire mon programme. C'est moi le maître de cérémonie. Donc, je fais ce que je veux. Milan-Juve. Je dis ça parce que quand on entend y passer 30 secondes, vu le match, je peux me le permettre. Du coup, deuxième contre troisième. Titre est joué. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, les gars, mais c'est un peu bizarre ce que je vais dire. Ça va faire un peu peur, mais c'était plutôt à la Juve de faire le jeu ou de chercher le résultat. Dans ce match, Milan avait des blessés, et de toute façon, il était à plus 5. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je trouvais un peu injuste les critiques qu'il y avait sur Milan qui a subi. Mais à un moment donné, ce n'était pas à Milan de chercher à gagner un match où ils sont deuxièmes et à se découvrir. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, mais.
Bah, moi, personnellement, j'ai trouvé, avant un peu d'argumenter sur la Juve, le Milan a fait, au-delà de l'aspect offensif où ça a été le néant total, vraiment, il y a très peu d'occasions. Je crois qu'il n'y a aucune frappe cadrée pendant le match. Mais défensivement, ils ont été bons. Moi, je pense à Maliccio, que je trouve depuis la saison dernière, la deuxième partie de saison, il était vraiment fort. Il a eu un coup de moins bien là, cette saison, avec notamment quelques blessures, quelques pépins physiques. Donc c'était rassurant défensivement, et puis Sportiello dans les cages qui a été aussi important. Et puis la Juve, ouais, ils ont quand même bien poussé les 10 dernières minutes. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais la Juve m'a un peu fait peur dans les 10 dernières minutes. Mais c'est que voilà, quoi, c'est une équipe, je trouve, qui fait une nouvelle fois preuve de suffisance. Voilà, qui, dans l'ensemble, en vue des 10 dernières minutes, on va dire qu'on aurait même pu gagner ce match, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire qu'ils mettent l'impact, l'intensité 10 minutes, quoi. C'est pas suffisant. Donc, un résultat limite, tu as l'impression qu'ils sont rentrés sur le terrain, les deux équipes, et que y avait une volonté de pas prendre de risques, d'assurer au moins le nul, et puis voilà.
Ouais, après, je suis d'accord avec toi. En plus, pas oublier qu'il y avait quasiment toute la partie défensive qui était amputée de Maignan, qui s'est encore blessé avant le match.
Ouais.
Et comme tu as dit, Thio, qui est pas très bon, mais là, qui est bien revenu, qui a fait un bon match. Et Gabia aussi, on n'en parle pas souvent, mais qui a aussi bien joué. Et on avait Moussa en arrière-droit et Florenzi à gauche. Bon, c'est vrai que quand moi j'ai vu le match au début, on en parlait avec Rafa, moi j'ai eu un peu peur hein, avec la formation qu'il y avait. Mais finalement, comme quoi, c'est pas forcément que les hommes qui font la différence, c'est aussi l'attitude que vous donnez l'entraîneur, parce qu'on n'a pas forcément les meilleurs défenseurs, mais ils ont bien défendu. Comme quoi, c'est possible de ne pas prendre tout le temps des buts. Et comme tu as dit, de toute façon, Milan était venu surtout pour ne pas perdre, et ils ont bien fait. Et je pense que Rafa, il dira pareil, mais il fallait surtout arrêter l'hémorragie, parce que ça devenait compliqué, là. On s'était quand même pris des cacahuètes contre la Roma, contre l'Inter, j'en parle pas. Donc, je pense que c'était bien aussi, peut-être, de ne pas continuer la spirale, quoi.
Ouais, moi je suis complètement d'accord avec vous. Effectivement, il y a 4 joueurs titulaires sur les 5 défensifs qui étaient absents, donc Calabria, Théo, Tomori, Maignan. Je pense qu'au vu de la compo, avant le match, il y en avait peu qui allaient donner un Milan sans prendre de but. Donc moi déjà, j'étais satisfait de ce niveau-là. Et puis comme tu l'as dit, ça faisait un moment que Sassuolo t'en prend 3, la Roma t'en prend 2, l'Inter t'en prend 2. Donc là, il fallait un petit peu stopper l'hémorragie. Le nul en soi permet à Milan d'avoir quand même une longueur d'avance. Donc, comme vous avez dit dans les dernières minutes, c'est suffisant. C'est pas comme si tu étais obligé d'aller gagner. Et comme tu l'as très justement dit, Antoine, c'est à eux de faire le jeu. C'est à
Surtout,
eux
dans la gestion
d'aller
de faire
gagner.
le jeu, c'est compliqué, hein.
Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Et comme c'est à eux de faire le jeu et qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils ne l'ont jamais fait cette saison, bah, ils étaient bien emmerdés. Et du coup, le 0-0 est assez logique. Ce n'est pas un match dont on va se souvenir. Mais voilà, Milan a du coup 4 derniers matchs assez tranquilles. Donc, bon.
Face à un Genoa, attention, hein.
Oui.
Le petit Gilardino à San Siro. Moi, je partirais parce que là, on a l'impression qu'on est en train de se dire que grosso modo, Milan va finir deuxième, la Juve. Attention quand même, mais moi, je suis pas si serein que ça. Je dis, il reste 4 matchs. Le Milan, comme tu as dit, il y a le Genoa. Bon, après, je crois qu'il y a un match contre la Salernitana, si je dis pas de bêtises. Et après, je sais plus c'est quoi les deux autres matchs.
T'as vu le calendrier de la Juve ou pas? Parce
Il est
que
très dur.
c'est pas pareil, hein.
Ouais,
Parce
la
que là,
Juve, c'est vrai que c'est costaud. Bah, il y a la Roma et Bologne, il me semble.
ouais, et
Déjà.
l'Atalanta en finale, ils ont la
Ouais.
Coupe d'Italie au milieu.
Mmh.
Donc bon, si la Juve
Oui, c'est vrai.
remonte, c'est quand même qu'il y a un souci côté Milan et que là. Mais bon, après, est-ce que. Bon, ça, c'est juste pour le petit classement final, mais même si Milan termine troisième, je veux dire, ça ne changera rien.
Oui.
De qualification et même en termes de pognon, il me semble qu'il n'y a pas une grande différence entre le 2 et le 3. Mais
Non, il n'y a pas de grande
non,
différence.
pas
Après,
grand-chose.
et en plus, Milan, ils sont quand même déjà qualifiés même pour la Super Coupe
Ouais.
d'Italie et pour la Ligue des Champions aussi, de manière mathématique. Mais pour la Super Coupe d'Italie, parce que comme la Juve est en finale de Coppa Italia, c'est déjà le cas. Après, enfin, faut quand même terminer deuxième à un moment donné, il ne faut pas non plus
Oui,
déconner.
complètement.
Ouais,
Complètement.
moi, ce que quand même.
Moi, je veux bien, les gars, mais bon, à un moment donné, l'humiliation continue. En plus, tu as 5 points d'avance. C'est honnêtement pas une. Pas une grande juve, donc je pense que c'est un devoir maintenant de terminer.
Et pour teaser un podcast futur, je pense que c'était le dernier Juve Milan d'Allegri et de Pioli, parce que les deux entraîneurs vont
Sauter, oui.
sûrement partir. Donc voilà, c'était aussi peut-être un clap de fin pour ces deux entraîneurs-là, qui seront restés très longtemps dans chacun des clubs, pas très longtemps, assez longtemps dans chacun des clubs. Et
Oui.
on en fera un podcast très bientôt. Je ne sais pas si on attendra la fin du championnat ou si on fera ça juste avant. Mais en tout cas, on se posera la question des futurs entraîneurs des clubs de Serie A.
On va le faire enfin dans pas longtemps. Après, bah, sans, je pense que nos auditeurs lisent un peu la presse. En ce moment, à Milan, ça s'agite un peu, mais on en parlera prochainement. Bon, on va passer à la partie sensible, mais bon, il faut bien qu'on y passe. On est des professionnels. Inter, fête du Scudetto. On va dire qu'il y a des choses qui ont un peu, enfin, de moi, ce que je pense, ce que j'ai observé, ce que j'ai vu, il y a quand même des choses qui ont un peu obscurci leur fête aux interistes. Bon, pour fêter bien sûr leur deuxième étoile et leur titre qui est évidemment mérité. Il y a quand même eu beaucoup de trash talk et j'ai l'impression que c'était historiquement, c'était peut-être pas comme ça avant, mais il y a quand même eu plus de trash talk envers le Milan qu'envers la Juve, sachant que l'Inter et la Juve sont des d'énormes rivaux. Je prends un exemple bête, hein, Çalhanoğlu qui fait un tweet après le titre, enfin après le derby, où il se met en scène en dessin avec derrière certaines des insultes que faisait l'histoire du Milan. J'ai quand même l'impression que. Du côté de certains joueurs interistes, ils ont du mal à digérer le titre 2022 parce que c'est quand même très dirigé envers le Milan, envers les joueurs du Milan. Et notamment, on a vu, on l'a tous vu, hein. D'ailleurs, Tristan, je sais que tu en as même parlé dans SoFoot, on a vu la fameuse image reprise du jeu GTA, on voit Dumfries qui tient en laisse comme un chien Théo Hernandez. Beaucoup de polémiques, la fédération ouvre une enquête, il aura une amende, comme ont eu déjà des amendes des joueurs du Milan. La dernière fois, on a vu aussi Fratesi tenir des pancartes un peu chaudes. On a vu des chants de supporters un peu compliqués de Bastoni, de Barella et d'autres joueurs. Mkhitaryan a refusé de prendre par exemple une pancarte anti-Milan et Barella a demandé un arrêt de chant au Duomo contre Milan. Donc il y a quand même des joueurs qui ont voulu un peu calmer les choses. Mais moi de souvenir, les gars, je ne sais pas vous, on est tous des Milanais, on est quand même jeunes. J'ai pas le souvenir quand même d'une rivalité et d'une aigreur aussi entre les deux clubs. Hein, mais d'un côté, trash talk, aux US, c'est normal, mais qu'est-ce qu'on en pense dans le foot finalement? C'est un manque de respect, c'est pas un
Mais
manque de
moi,
respect?
moi, je trouve que ça coïncide avec le. Tu parlais, on avait trop le souvenir de ça, étant donné que moi, par exemple, je suis à 2000, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément connu. Quand on a commencé à connaître les derbies un peu minables du milieu des années 2010 à fin 2010, on va dire, grosso modo. Donc, forcément, ça coïncidait avec le fait qu'il y avait des deux équipes qui étaient plutôt médiocres. Donc. Il n'y avait pas de quoi s'extasier, il n'y avait pas de quoi chambrer son cousin parce que nous, devant notre maison, c'était pas plus beau. Et donc là, forcément, les deux ont retrouvé un peu, alors proportion gardée, mais un peu retrouvé leur sensation. Milan a été champion en 2022. Il y avait déjà eu quelques chambrages de la part de Théo Hernandez, un peu Ibrahimovic, de Tonali aussi un petit peu. Mais donc moi, pour moi, c'est. En tant que, si on parle en tant que supporter milanais, on en reviendra après, les gars, mais moi je l'ai pas mal pris, je trouve ça bon enfant. Il y a eu des insultes, il y a eu la pancarte de Dumfries. Je pense que le passif entre Dumfries et Théo Hernandez s'explique aussi. Depuis 2-3 ans, chaque derby, c'est souvent bouillant entre les deux. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis ça va peut-être permettre aux Rossoneri de revenir motivés la saison prochaine et se dire, ils nous ont humiliés une fois. Au Duomo, ça n'arrive pas une seconde fois, quoi. Donc moi, je suis déjà impatient de voir le derby de l'année prochaine. Le match aller, je pense qu'il y aura des règlements de compte. Et en vrai, c'est plaisant.
Moi, je ne suis pas contre non plus le chambrage. Au contraire, je trouve que ça fait partie du sport quand c'est bon enfant. En revanche, il y a des choses qui le sont moins. L'affiche, alors ce n'est pas Dumfries qui est à l'initiative de cette affiche, hein, on le sait bien, c'est quelqu'un qui lui a donné. Mais c'est totalement irrespectueux. C'est plus que ça, mettre Théo sur la tête d'un chien, le porter en laisse, alors que bon, Dumfries. Il n'était pas titulaire à son poste cette année, il a tenu en laisse personne, soyons très clairs, si on veut parler juste du sport. Et je sais pas, c'est dégradant c'est dégradant. Je pense que c'est une erreur de sa part. Je pense aussi, et moi ce qui m'a vraiment gonflé, pas tant le chambrage fait partie du sport pour moi, fait partie des rivalités. En revanche, ce qui m'a gonflé, c'est qu'ils essaient de retourner la situation en mode c'est les Milanais, c'est les Milanistes les pleureux, c'est les pleureuses, c'est eux qui se plaignent. Les gars, il y a 2 ans, c'est les Interistes, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, c'est les Interistes qu'on n'a pas arrêté d'entendre chialer après le titre du Milan avec Théo Hernandez, toujours lui le diable, avec Ibrahimovic qui se la raconte. Bah, les gars, ils font bien pire 2 ans après. Donc, je ne sais pas, il ne fallait pas venir pleurer il y a 2 ans si tu fais pareil, voire pire 2 ans après.
Oui,
Encore une fois, si
il y
tu
a
dis rien
toujours.
il y a 2 ans, tu as le droit de faire ça. Mais si tu pleures il y a 2 ans, arrête de dire 2 ans après, ah ben, vous l'avez déjà fait, nous, on le fait aussi, quoi.
Il y a un côté. Je ne vais pas citer certains comptes X et X ex-Twitter. Moi, j'ai quand même vu comme des sacrés sauts de purin quand même tomber. Et un truc que je trouve quand même assez drôle, c'est que c'est ce côté de. Voilà, nous, l'Inter, on est des. Et je suis désolé de dire ça, mais même des dirigeants de l'Inter, on en parle aussi. L'élégance, nous on joue en smoking blanc, le beau football, machin, mais en fait, vous êtes ni mieux ni pire que Milan, vous êtes comme tout le monde. Je trouve quand même qu'il y a quand même des déclarations qui auraient pu un peu être passées, notamment. Et quand je vois comment certains s'excitent dans la presse sur Pioli quand il a parlé de l'Inter, à un moment donné, c'est comme quand, la dernière fois, quand Marotta parle du modèle de l'Inter, on parle de quel modèle? Du modèle où tu as 1 milliard de dettes et que ton président. N'est pas venu à la fête parce qu'il est bloqué en Chine pour ses histoires judiciaires. Enfin, à un moment donné, je pense que bravo sportivement, c'est magnifique, mais nous parler de modèles, etc., etc., qui profitent de leur titre, qui est encore une fois mérité, et ils ont encore d'ailleurs des records à aller chercher. Mais je pense que même les dirigeants, ils pourraient un peu se taire. Inzaghi, qui a passé son temps à pleurnicher depuis des années, là il gagne, il dit rien. Et puis il l'a dit, c'est toujours facile de donner des compliments quand on est le gagnant, quoi. Donc bon, je pense qu'il faut aussi un peu arrêter de se prendre pour des. Il y a eu des polémiques, on en parlait ce matin. Ouais, nous on était 300 000 au Duomo pour la fête du Scudetto, vous étiez 30 000. Mais comme m'a très justement dit Cédric tout à l'heure, Milan gagne le championnat à Sassuolo. Enfin, à Reggio Emilia contre Sassuolo. L'Inter, la fête de l'autre jour, de ce week-end, elle était prévue depuis une semaine. Donc les Interistes ont aussi le temps de venir. Et en plus, au niveau des chiffres, c'est même pas vrai. On y avait entre Casa Milan et le Duomo, il y avait 1 million de supporters du Milan AC. Bon, même rentrer dans des débats de comparaison, comme on dit, on se la mesure, c'est, ça devient un peu compliqué. Et moi, j'ouvrais aussi un autre sujet qui peut paraître un petit peu dur, mais est-ce que si on avait vu la même image de Théo Dumfries inversée avec Dumfries qui serait dépeint comme un animal, avec le temps qui court et les polémiques qu'il y a eu en Italie, est-ce que ça n'aurait pas pu ouvrir aussi des sujets de racisme? Je me pose des questions. Bon, je pense qu'il y a des choses qu'il faut arrêter, et en plus Dumfries, qui a fait des excuses, mais en fait, il s'est excusé, mais pas. Il s'est pas excusé auprès de Théo. Il a fait une déclaration, mais en fait, il s'excuse d'avoir pris ça, mais pas pour Théo. Donc, bon, moi, comme je disais la dernière fois, je suis même content que Théo, qu'elle a vraiment pris des cartons rouges. Je rappelle que Dumfries en a pris un aussi pendant le derby. Et j'espère que ça va animer les prochains derbys, les gars.
Bah, c'est
Et
ça
surtout.
avant le derby, ils vont se réaffronter hein, en fin de saison, normalement, j'espère. Parce qu'avec à l'Euro, les Pays-Bas sont dans la poule de l'équipe de
Oui.
France. Donc c'est fort possible que Théo
Mais
Hernandez se retrouve titulaire face à Dumfries, titulaire au mois de juin.
ouais, en
Mais
plus
c'est
c'est
vrai
cool.
qu'on avait
Non, je dis en plus c'est cool en vérité qu'il y a un peu de qui un peu de
Oui,
comment
moi
dire
c'est ce que je.
ah oui de rivalité d'animosité. Après pas que ce soit violent que ça sorte des limites mais c'est ça qui fait un derby sinon c'est plus un
Non,
derby.
mais c'est ça qui. Moi j'ai l'exemple aussi de Mancini après le Lazio Roma où il a brandi une pancarte, enfin ouais, une pancarte anti-Lazio. Enfin, franchement, on en a fait des polémiques pour ce qu'il a fait. Moi, je trouve qu'on est dans un football beaucoup plus aseptisé depuis, on va dire, 10 ans, où les joueurs n'ont pas un mot plus, n'ont pas un mot de travers, où c'est très contrôlé, où finalement, il y a pas forcément de joueurs qui vont chambrer l'adversaire, où ça va rester dans le cadre du match. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort de l'enceinte, c'est fini. Là, franchement, je trouve que c'est une bonne chose. Après, peut-être que Dumfries, sa pancarte a été maladroite. Peut-être que Théo Hernandez, on ne s'est pas encore exprimé sur le sujet, peut-être qu'il l'a mal pris. Dans ce cas-là, forcément, quand tu te mets à la place, entre guillemets, je mets des guillemets, hein, de la victime, et que lui, il explique qu'il l'a mal vécu, bah, dans ce cas-là, c'est pas forcément une bonne chose. Mais dans l'ensemble, il y a eu des chambrages côté de Milan il y a 2 ans, il y en a eu du côté de l'Inter. Et c'est ce qui rend un peu notre championnat un peu plus divertissant, quoi. Parce que j'en ai un peu marre, moi, des championnats style, on prend l'exemple souvent de la première ligue, qui est le bon élève, où il se passe pas grand-chose, où il n'y a pas de joueurs qui vont avoir un mot de travers, où tout est lisse. Là, franchement, ça donne des sucreries à ce championnat, je trouve. C'est sympa. Tant que ça dépasse pas, bien évidemment, le cadre et qu'on n'a pas d'insultes, comment dire, d'insultes. Entre guillemets discriminatoire, raciste, etc. Tant que c'est entre guillemets bon enfant, la pancarte de Dumfries, je pense qu'il était dans l'euphorie, on lui a donné ça, il l'a brandi, bon, peut-être que c'était pas approprié, bon, je trouve ça plutôt bon enfant, moi, personnellement.
Je suis assez d'accord avec toi et je pense que ça va juste donner du piment, comme tu as dit, pour l'an prochain. Bon, les gars, avant de passer au sujet suivant, une petite transition, hein, dédicace à mon petit frère Pierre et à Manu, un autre Milanais qui bosse avec moi. Un petit chant en l'honneur d'Hakan Çalhanoğlu. Serie A finalement les gars aussi, bon, le titre il est joué, mais la deuxième place on peut presque le dire, c'est pas très très loin pour Milan. Mais sacré embouteillage pour les places encore européennes et pour la relégation. Enfin, moi je trouve quand même que c'est cool d'avoir cette fin de championnat passionnante. Vous en pensez quoi les gars?
En fait, je regardais en même temps le calendrier de l'Atalanta, parce que moi, je les trouve vraiment, vraiment très chauds dans une dynamique qui est assez folle. Et je me demande si la petite cote serait pas qu'ils coiffent au poteau, même Bologne, parce que là, ils sont sixième, mais ils ont un match en moins. Avec ce match en moins gagné, ils monteraient devant la Roma à 60 points, parce que pour faire très, très court, Bologne 63 points, Roma 59, Atalanta 57. Voilà, ça va plutôt être ces trois équipes-là qui vont jouer la 4, 5, 6e place, je pense. Et en fait, l'Atalanta, ils pourraient remonter devant la Roma. Et avec le calendrier qu'ils ont, qui n'est pas facile, mais qui n'est pas non plus insurmontable, ils jouent quand même Salerne, Lecce et le Toro. Bon, ok, dedans, tu as la Roma en match de championnat et le reste, c'est de la coupe. Donc,
tu as quand même trois matchs qui sont très abordables. Je pense que ça peut le faire. Et je me demande même s'ils ne vont pas coiffer au Botto Bologne, qui a quand même encore perdu quelques points ce week-end. Ils ont fait nul contre l'Udinese. Donc, allez,
Udinese.
petite cote sur l'Atalanta. Bon.
Ouais, en plus, on peut aussi dire que c'est quasiment mort prenable parce qu'ils ont 9 points de retard sur la Roma. Il faudrait que la Roma ils perdent 4 matchs et
Bah, Naples, t'as vu, je les ai même pas, j'en ai même pas parlé.
terminé. Je ne sais même pas s'ils vont rester en Europa League. Hein. Ça me paraît. Parce que, comme tu as dit aussi, la Fiorentina, le match en retard, ils doivent jouer contre l'Atalanta.
La première place européenne, c'est la huitième, on est d'accord? Septième.
7e, je crois.
D'accord, donc ouais, là, ils sont neuvième à 50 points, le huitième qui est la Fio à 50 aussi, avec un match en moins, et la Lazio qui est septième a déjà 55. Donc ça me paraît beaucoup en quatre matchs restants d'aller chercher 5 points, c'est beaucoup, je trouve.
Je ne sais plus si c'est 7e ou 8e parce que tu as
Après,
l'histoire de
je
la
trouve
conf.
ça, mais je trouve ça dommage du côté du Napoli parce que franchement, la prestation qu'ils ont fait là ce week-end, je ne sais pas si vous avez suivi, bah, contre la
Bon,
Roma,
elle était bonne, je suis d'accord avec
elle
toi.
était plus, ouais, elle était vraiment. Franchement, tu fais ça. Enfin, je veux dire, c'est là que tu vois que cette équipe, quoi, elle est mobilisée, il y a de la qualité, ils savent jouer, ils mettent en danger. Hein, alors c'est, j'ai toujours du mal avec la notion de mériter la victoire. Oui, ok, c'est facile de dire ça, mais. Ils ont quand même bien bousculé cette Roma qui semblait un peu intouchable, même s'ils avaient perdu contre Bologne en début de semaine. Mais ils les ont vraiment bousculés et j'étais putain, ça me faisait plaisir de les revoir,
Ouais,
de les revoir jouer comme ça. Maintenant, voilà, comme tu as dit, Raphaël, et je suis entièrement d'accord, ils sont quand même assez loin. Ça va être compliqué pour eux. Hein. Franchement, ça me semble presque mission impossible.
non, c'est mort. Là, c'est mort. Et même quand je regarde leur stat, 13 victoires, 11 nuls, 11 nuls, 10 défaites.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment c'est
Ouais.
faible hein, pour un sort pour un champion.
Champion.
Champion de titre, c'est franchement, c'est déjà l'an dernier, Milan, quand ils arrivent cinquième, et je rappelle qu'ils sont cinquième, sportivement, ils arrivent quatrième parce que des points à la Juve, déjà, c'était galère. Mais alors là, être à ce niveau aussi bas, moi, je m'y attendais pas, mais enfin bon, c'est leur problème. Et en bas, c'est pareil, les gars, en bas, bon, Sassuolo, ça commence à sentir
Ouais.
le sel. Mais Sassuolo, 19e, ils ont
Ah,
26
ça
points.
solo, c'est.
Catastrophe. Sassuolo, 26 points et. Cagliari, c'est quasiment fait, ils ont 6 points d'avance, hein. Je pense que c'est quasiment bon pour eux, mais en gros, ça joue entre l'Hellas 15e, 31 points, et
Ouais.
19e, 26 points, et pareil, hein. Si vous regardez même comment dire, les derniers matchs, les formes, Sassuolo, Udinese, catastrophe, Empoli, ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd, Frosinone, après tous les matchs d'affilée, ils ont fait enfin une victoire, et Vérone, c'est pareil, c'est inconstant, mais... Alors franchement, les gars, on vit une fin de saison aussi dans la relégation.
Ouais,
Le
super
titre, c'est en
intéressante.
janvier, mais là, le reste, c'est la chambre ouverte.
Ouais, et c'est ça qui est assez intéressant aussi pour la fin de saison, même pour les gros clubs, parce que c'est en fait finalement, c'est peut-être quasiment les gros clubs qui vont arbitrer la relégation, vu que Milan, Inter, la Juve, etc., jouent des petits clubs, entre guillemets. Mais entre Cagliari, qui est 14e, et l'Udinese, qui est 18e, il y a à peine 3 points. Donc 3
8
points, ça
points.
peut aller très vite. Il y a aussi des équipes qui ont des matchs en retard. Donc voilà, hormis Salerne qui, eux, voilà, c'est déjà terminé. Sassuolo, ça va être très compliqué, je pense, d'aller chercher au-dessus de
Ah,
la
ça
dixième
saoule. Je
place.
trouve que ça saoule, ouais, c'est. Parce
Mais.
que là, le match contre la Fiorentina,
Quelle catastrophe.
franchement, je sais, ils arrivent à revenir 1-1-1, mais ils prennent 3 buts, je sais pas, en 10 minutes. Moi, je plains le pauvre Consigli parce que le mec, il est au bout de sa vie. T'as l'impression que faut sauver le soldat Andrea, quoi, parce que il est aux abois. Et ça me fait de la peine parce que ce club, je sais que Cédric n'est pas forcément, il n'est pas là, mais il n'est pas forcément, c'est pas forcément un amateur de Sassuolo, mais je trouvais qu'il y avait un projet plutôt cohérent depuis quelques années. Ça travaillait plutôt bien. Et là, en fait, cette année, ils se sont écroulés, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense que Sassuolo, alors, mathématiquement, ils ne sont pas relégués, mais je ne sais pas
Ah,
ce que vous en pensez, les gars, mais
une saison qui
je les
est
vois pas remonter la pente.
catastrophique,
Ils
faut
vont
le dire.
sauter et
Ouais.
je pense que c'est un peu la fin de leur. Même si pendant des années, ça a été un modèle qui a même été suivi en Europe, Sassuolo, parce que je rappelle qu'ils ne jouent même pas dans leur
Ouais.
stade. Ils jouent Reggio Emilia, ils ont MAPEI qui est un grand groupe italien industriel qui est derrière eux. Mais je pense que c'est aussi la fin de tous les ans de vendre des joueurs 30-40 millions d'euros. Et finalement, à un moment donné, en fait, ce modèle, il s'effrite. Et là, en plus, tu perds Berardi qui est. Quoi qu'on en dise, c'est un personnage important du championnat italien qui a toujours des super stats. Il s'éclate en deux. Il y a des mecs comme Lorienté qui sont plus en forme qu'en l'an dernier. Enfin, là, enfin, les gars, quand je regarde les stats, ils ont quand même mangé 70 buts. Kier, c'est ça,
Ouais,
c'est
c'est
ça.
énorme.
73, mais prendre 70 buts,
Ouais, c'est
c'est.
chaud.
Et les gars, ils ont quand même des joueurs en plus. Hein. Salern, je pense que c'est aussi structurel le problème, c'est plein de choses, etc. C'est solo, les mecs, ils se battaient avant pour arriver 10e, 11e. Là, ils sont 19e, ils ont
Bah,
plus.
c'est ça, c'est que
70 buts.
pour moi, c'est alors on va en reparler, mais je trouve que c'est vraiment le mauvais élève de la saison parce qu'il y avait un
Plus que
projet
Salern, je
plutôt
suis d'accord avec
cohérent.
toi. Plus que Salern, parce que Salern, ils ont toujours vagué dans les parties basses. Et
Oui.
même si cette année, ils avaient un
Mais
effectif
c'est vrai,
pour moi
comme.
pour aller gratter la 10e place, Salern. Ils ont un super effectif.
Ouais,
Mais tu sais que c'est le
c'est
bordel.
sûr.
Tu sais que c'est mal structuré. Tu sais que le président Iervolino, c'est un teubé. Enfin, tu sais qu'il y a des trucs qui vont pas. Mais alors
Moi,
là, ça.
j'ai quand même. Moi, j'ai trois. Tu parles de déception et on va un peu quitter la fin de tableau pour reparler du haut. J'ai trois grosses déceptions, moi, qui me viennent tout de suite en tête. Bon, la première, c'est Naples. Forcément, tu es champion en titre, tu vas Oui.
peut-être terminer 8 ou 9e. OK, c'est ridicule. La
Bien sûr.
deuxième, si on veut rester dans l'eau, pour moi, c'est la Lazio. La Lazio, c'est incroyable. Enfin, ils sont deuxième la saison dernière. Là, ils sont sixième. Et une petite stat, là, je l'ai sous les yeux. Est-ce que vous savez qui est le meilleur buteur en championnat de la Lazio et avec combien de buts?
Ça doit être un milieu de terrain avec 4 ou 5 buts. Bon.
Alors, c'est Immobile. Et donc, déjà, surprise, c'est Immobile parce qu'on ne l'a pas vu beaucoup marquer. Il est à six buts.
Oui.
Les mecs, ils sont sixième. Le meilleur buteur, c'est il est à six buts, quoi. C'est incroyable. C'est assez chaud pour eux. Et effectivement, pour moi, c'est une équipe qui doit faire beaucoup mieux, qui a eu un recrutement avec beaucoup d'ambition, enfin beaucoup d'ambition, beaucoup d'attentes plutôt que d'ambition, parce que c'était des paris quand même. Mais ils vont retrouver, là, ils sont sixième, mais ils peuvent très bien être derrière d'autres équipes, derrière Naples peut-être, derrière l'Atalanta, etc. C'est une équipe qui est passée de la deuxième à peut-être la 7-8e place, un peu dans l'anonymat d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas trop parlé.
Mais moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, Raphaël. Je trouve que la Lazio,
Ouais.
finalement, t'enlèves le trio tête Milan, Juve, Inter qui semble au-dessus de la Lazio, mais devant aussi, tu as quand même trois équipes, Bologne, la Roma et l'Atalanta qui a 2 points d'avance avec un match en moins. Ça, faut le souligner, donc ils pourraient les mettre potentiellement à 5 points. Je trouve que la Lazio, finalement, à ce qu'elle est à sa place, elle aurait peut-être pu faire mieux. Mais globalement, moi, je les trouve. Enfin, je ne m'attendais pas à plus que ça, sachant que c'est une équipe qui a recruté cet été. Tu as dit, il y a eu l'arrivée de Kamada, de Guendouzi. Kamada, d'ailleurs, qui commence enfin à jouer. Et on se rend compte que ce n'est pas
Isaacsen,
un si mauvais joueur de.
aussi, pas rien.
Ouais. Mais finalement, moi, je pense que c'est une équipe qui peut, en vue de la concurrence et de ce qu'elle a comme arme, difficilement, on peut difficilement attendre plus de cette équipe, je trouve personnellement, en tout
Ouais,
cas.
mais je pense que Raphaël dit ça aussi parce que quand tu termines deuxième l'an dernier, et enfin,
Oui,
comme ça.
c'est sûr, ouais, c'est sûr.
Ouais, il y a ça, et je rappelle quand même qu'ils ont fait certains matchs entre les derbies. Moi, je me rappelle aussi d'un 4-0 contre Milan, enfin. Et en plus, comme dit Raphaël, c'est tu dis, tu commences la saison avec le même coach, Sarri, tu as un recrutement qui est un peu de qualité, tu sors quand même de ton groupe de Ligue des Champions et tu t'écroules. Je pense que entre 2 et 7, allez, moi je suis d'accord avec toi, je pense que la qualif en C1, c'était quelque chose d'assez anecdotique. C'est pas un club qui fait pour ça. Le président, je pense même pas qu'il le veuille vraiment parce que qui dit aller en C1 dit aussi devoir un peu recruter, dit aussi que les joueurs vont demander plus de salaire et on sait que le Tito, il a des oursins dans les poches. Donc je sais que c'est pas adapté à ça.
Je pense qu'il y a un problème aussi par rapport à la relation entre Lotito et Sarri. Il y a eu
Bien sûr.
Lotito taré qui est parti. Lotito, enfin Sarri, avait laissé entendre qu'il avait, au début de saison, il avait dit j'avais demandé un mercato A, j'ai eu le mercato B. Enfin, en gros, que les joueurs qu'il a eu, ça, c'était
Bien
pas
sûr.
forcément ce qu'il voulait. Donc déjà, tu pars dans une situation où en interne, ça se passe pas forcément bien. Et finalement, là, tu as Tudor qui arrive en sauveur, entre guillemets, ça se passe plutôt bien. D'ailleurs, il devrait être prolongé pour la saison prochaine. Je pense que c'est une bonne chose. Mais il y avait aussi ce problème-là institutionnel, je pense, entre le Tito et Sarri, quoi.
Ouais, après, bon, comme tu dis, pour Lazio, tu devrais t'arriver, il est plutôt sur une bonne série avec 3 victoires d'affilée, donc c'est pas encore fini pour.
L'année dernière, bon, dernière petite stat un peu à la con, l'année dernière, ils étaient à plus 30 de différence de but. Là, à l'heure actuelle, ils sont à plus 8. Donc, ça signifie aussi
Ah
qu'ils
ouais.
ont plus, ils marquent beaucoup
C'est clair.
moins. Mais sur une saison qui est complètement différente et qui est quand même, je pense, très décevante par rapport à ce qu'ils avaient affiché l'an dernier, ce qu'on pouvait penser qu'ils allaient afficher cette saison. C'est bon, après bon, voilà, hein, c'est on verra l'année prochaine, mais c'est une équipe qui aurait pu entre guillemets grâce à leur deuxième place prendre un bon wagon pour les prochaines années. Et au
Oui,
final,
c'est vrai.
Naples, ils l'ont pas pris. Enfin, du coup, ils n'ont pas confirmé. Et je pense que là, ils vont être un peu largués parce que la Juve, gros chamboulement, je pense, cet été, eux, avec une ambition de titre certaine. L'Inter et le Milan, ils vont devoir rester dans les trois premiers. La Roma, qui a beaucoup d'ambition avec De Rossi, ça va être dur de se frayer une place. Et là, là-dessus, et le Napoli, je me demande si ce n'était pas un petit peu le moment ou jamais pour rester dans le top. Et ils l'ont pas fait.
Oui, ça va être... qu'on aura une saison passionnante, en plus, surtout avec l'aval des entraîneurs, ça risque d'être sympa.
Ouais, il va y avoir pas mal de mouvements.
Énormément. À part l'Inter, je pense que ça peut bouger quasiment de partout.
Pseudo tifosi, gente che vuole male al Siena. Gufi, state a casa.
Les gars. Malheureusement, le mardi et le mercredi, à part pour parler d'Ancelotti, on n'a pas grand-chose à dire pour l'Italie en Ligue des Champions. Mais par contre, jeudi, on a un savoureux Marseille-Atalanta et un Roma-Leverkusen. Bon. Question sèche, qui passe? Rafa.
L'Atalanta seulement. Leverkusen, ils vont vouloir, ils vont être à fond, ils n'ont plus grand-chose à jouer à part l'invincibilité en Bundesliga. Je pense qu'ils vont tout donner dans la double confrontation. En plus, ils reçoivent au retour. Et l'Atalanta reçoit au retour aussi. Donc, je vois plutôt l'Atalanta passer.
Tristan.
Moi, je crois que je vais rejoindre l'ami Rare, l'Atalanta. La Roma, je pense qu'elle a peut-être moyen de faire quelque chose, comme tu as dit, il se déplace au match retour. Donc, la bande à De Rossi peut peut-être faire quelque chose au match aller. Peut-être, parce qu'on sait très bien, ces diables allemands qui arrivent à chaque fois à se sortir de situations inimaginables, notamment le week-end
De fou,
dernier.
hein. C'est incroyable, hein, le nombre de. Je te coupe,
Ouais.
ils ont réussi dans 9 matchs différents, je crois que j'ai vu la stat, à
Ouais,
marquer
c'est fou,
un
c'est
but
dingue.
pour perdre. C'est incroyable. Je crois que c'est du jamais vu dans le football. C'est
Mais
incroyable.
donc, ouais, peut-être le match aller, la Roma peut faire quelque chose. Après, le match retour, ça me semble compliqué, sachant que, comme tu as dit, Raph, les Leverkusen sont déjà champions, donc ils peuvent être entièrement focus sur la Ligue Europa, alors que la Roma va peut-être perdre un peu de plume avec le championnat, ou peut-être un peu plus se focus sur le championnat, je ne sais pas, même si les coupes européennes ces dernières saisons notamment sont très importantes pour les Romains. Mais ouais, je pense que l'Atalanta, si la logique est respectée, il ne devrait pas y avoir de problème face à nos amis
Et
marseillais.
à voir avec quelle équipe la Roma va jouer, parce que Dybala, c'est quand même un joueur
Ouais.
important. Et Dybala, ces derniers temps, alors ok, il a joué plusieurs matchs d'affilée, mais il est sorti quand même en première mi-temps la semaine dernière contre Udine. Il était sorti, enfin, il a pas joué beaucoup non plus contre Lecce. Là, il vient de faire 90 minutes contre Naples. C'est pas interdit qu'il se blesse à l'entraînement ou bien qu'il se blesse
Ouais.
entre les deux confrontations. Et la Roma sans Dybala, ça va être très compliqué d'aller chercher les Leverkusen.
Ouais, compliqué. D'ailleurs, la Roma, un petit hommage, enfin, un petit hommage, un petit clin d'œil à notre ami Tammy Abraham, qui après sa très très grave blessure a retrouvé le chemin des filets contre Naples, égalisé après
Ouais.
360 sans but.
Un bon joueur, Abraham. Moi, franchement, je trouve que c'est un bon joueur.
Moi
Toujours
aussi,
eu
je
beaucoup
pense.
de respect pour ce type de neuf, un peu pivot, mais à la fois qui sait quoi faire avec ses pieds. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, Abraham.
Ouais, je pense qu'en plus, si rien de
Mais moi,
blessure.
surtout, ce qui m'a.
Moi,
Ouais, ce que je te disais, ce qui m'impressionne, la Roma, c'est qu'il y a vraiment de la profondeur, quoi. C'est-à-dire que tu as quand même Lukaku, Abraham, tu as Azmoun, tu as quand même 3-9. Quand même de bon de top, alors je dirais pas de top niveau, je dirais pas que c'est le
bon niveau
top niveau
1.
européen, mais ça reste quand même de qualité, ouais.
Bonne facture quand même. Mais d'ailleurs, on fera, je pense, un petit podcast de fin de saison aussi avec Stéphane Audy. Je rappelle notre intervenant régulier de la Roma, du site Amoroma. Parce qu'en plus, Azmoun et Lukaku, ils sont prêts et ils vont sûrement pas être gardés. Donc, en fait, la Roma, il va y avoir un vrai casting d'attaquants la prochaine. Donc,
Après,
ce sera.
c'est la troisième masse salariale de Serie A aussi, la Roma. Il ne faut pas oublier qu'ils ont 20 millions
Oui, c'est sûr.
d'euros de plus de masse salariale que le Milan. Donc, en termes de profondeur de banc, j'ai envie de dire heureusement, parce que quand tu es à 107 millions, que Milan est à 86, c'est assez normal d'avoir un peu plus de joueurs à mettre sur le banc. Et encore, je trouve qu'avec cette masse salariale-là, leur début de saison catastrophique est assez incompréhensible.
Oh, c'est clair. On va se mettre un petit
Pour le plaisir, on va s'écouter le but de Tammy Abraham. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite dédicace à mon pote Guillaume, grand supporter de. Pas ton Guillaume à toi, Rafa, mon Guillaume à moi, grand supporter de la Roma.
Corner, Dybala, testa, et gol, ha pareggiato la Roma, et torna il gol Tammy Abraham, 2-2, ancora da corner, la formation di De Rossi.
Bon, les gars, bah, il reste un tout petit. Allez, 10 secondes sur. Le match entre Bruges et la Fiorentina, parce qu'il faut qu'on soit professionnel. 10 secondes.
Bah franchement, moi, la Fiorentina, l'année dernière, ils étaient en finale. Ils se retrouvent. Déjà, ça fait plaisir de voir une équipe qui la joue, même si ils ne sont pas forcément étincelants et qu'ils sont supposés plus forts que leurs adversaires qu'ils ont affrontés jusqu'ici. Mais franchement, ils la jouent et on ne peut pas leur enlever ça. Et moi, ça me fait plaisir de voir des équipes, que ce soit des équipes italiennes, françaises ou néerlandaises, peu importe. Jouer les Coupes d'Europe et franchement, la Fiorentina, si tu arrives à accrocher une 2 secondes de finale de Conference League pour le projet du club, sachant que là, je pense que c'est un peu plus. C'est-à-dire, tu vas encore affronter finalement potentiellement un mastodonte anglais en finale, si tu vas en finale, Aston Villa. Mais c'est une bonne chose, franchement. Moi, je pense qu'ils ont vraiment la place de faire. Il faut pas se cacher. Ils sont les favoris de ce match, même si. Même si Bruges reste une très bonne équipe, mais je pense que la Fiorentina a besoin de cette compétition. Alors peut-être qu'on les verra en Ligue Europa en fonction du résultat de cette Conference League, mais franchement, ça fait toujours plaisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, de voir une équipe, même si c'est la Conference League, qui la joue et voilà, qui va à fond, quoi.
Comme a fait la Roma, et je pense d'ailleurs c'est un des héritages
Ouais.
que la Roma a gardé de Mourinho avec De Rossi, c'est on l'a vu nous avec le Milan, c'est qu'ils ont une vraie culture Coupe d'Europe qu'ils ont depuis quelques temps, et je trouve que c'est bien aussi pour la Fiorentina de jouer à fond, même si on sait que la Conference League c'est un peu une coupe en chocolat, mais pour
C'est
la
leur
Fiorentina.
moyen le plus simple pour se qualifier en Europa League. Hein. Parce que le vainqueur de
C'est
la
sûr,
Ligue
ouais, exactement.
Conference League est qualifié directement en Europa League. Et en championnat, ça va être un peu dur pour la FIO d'aller chercher l'Europa League. Là, il reste 3 matchs en conférence. Alors bien sûr, Bruges, ça sera peut-être un peu abordable, mais Aston Villa ou Olympiakos, mais plutôt Aston Villa d'ailleurs, ça va être assez compliqué en finale. Donc faut qu'ils donnent tout. Moi, je serais eux, je donnerais tout pour la coupe. C'est quand même super intéressant pour les supporters, les déplacements,
Ouais.
le rayonnement en Europe, etc.
Bon, les gars, bah, je vous remercie pour ce petit mardi un peu atypique, hein. On est toujours un peu groggy, tout ça, mais on va s'en remettre. Et je vous remercie. Je te remercie, Tristan. D'ailleurs, je rappelle à tout le monde, Tristan, qui fait des super articles sur SoFoot. Hein. Je les lis tous à chaque fois, hein, vraiment. Hein. Je les ai vus sur Pioli. Bon,
Merci beaucoup.
je suis pas d'accord avec toi, mais c'est prévu que je t'allume en podcast tellement.
On peut faire un duel, hein. On peut faire un duel dans le prochain podcast sur Pioli avec Antoine
Bon,
versus.
moi, ça, pas de problème. Moi, ça me chauffe en tout cas.
Enfin, c'était super, et tu fais très bon signe sur la Serie A, donc j'invite tout le monde à aller lire, c'est toujours intéressant. Bon, toi, mon Raphaël, on sait très bien comment tu brilles, tu es un astre, on le sait aussi. Je passe aussi un salut à nos deux autres compères qui ne sont pas là ce matin. Bah, à notre ami Nicolas Weiner, qui lui aussi fait des articles pour le journal de Mickey, c'est aussi cool, mais. Non, je déconne. Il fait des articles pour Nordisk, Lucarne Opposée, si je dis ça après, il va m'en vouloir. Et notre série Canalé, qui d'ailleurs a fait un super podcast, hein, son podcast Canal Inter. J'invite aussi à l'écouter, hein. C'est toujours intéressant. Et d'ailleurs, bah, je lui dédie cette chanson pour clôturer notre numéro.
Juste avant la chanson, je préfère dire entre parenthèses, c'est pas un putsch des supporters de l'AC Milan. Hein. On est 3 milanistes, mais c'est un hasard que ce soit le podcast qui suit le titre de l'Inter. C'est simplement par souci d'organisation et c'est pas du tout un putsch que l'on mène, nous, milanistes.
On peut le dire à nos auditeurs, c'est parce que c'est vrai qu'il est encore bourré du titre, et Nicolas, bah, il travaille. On sait que ça n'arrive pas souvent, mais il travaille, donc c'est aussi la raison. Et comme on est des grands professionnels, et bah, nous sommes là, et heureusement avec toujours autant d'envie et d'entrain en ce mardi matin. Donc pour se quitter, je dédie cette chanson à notre Cédric Canalé, une chanson de, je sais pas si vous connaissez Senza Fine de Gino Paoli. Je lui dédie, lui qui a son ciel étoilé de Milan. Bisous les gars, à la prochaine.
Ciao.
Ciao.
Tutto quanto s'affiche.